France Culture, les pieds sur terre.
J'ai toujours porté un couteau sur moi. On a toujours porté des couteaux. On avait des couteaux dans les chaussures. Quand on grandit dans la rue, on s'attache souvent à cette arme-là. Elle est symbolique, elle est belle, on l'aime, et elle fait partie de notre vie. J'avais 11 ans quand nous sommes arrivés à la ZUB, à Nîmes. Alors la ZUB était en partie construite de logements HLM, mais aussi une petite partie qui était un peu résidentielle. Mais tout le monde était au même niveau, quoi. Tout le monde était, c'était pas de gens riches, c'était populaire. Donc on s'est retrouvés, tous les enfants de toutes ces familles, des familles bien entendu de Français, d'origine espagnole comme la mienne, d'origine italienne, d'origine portugaise, des pays du Maghreb, mais aussi des Réunionnais, des Antillais. Et après, on a connu, suite aux événements qui se sont déroulés dans leur pays, une arrivée d'Argentins et de Chiliens. On était tous mélangés, on était très bien, on s'entendait très bien. Et ben, les parents ont vu leurs enfants grandir tous ensemble. Et c'est comme ça qu'est née, entre guillemets, la ZUB de Nîmes, dans la bonne entente, et que sont nés les bandas. Grandir dans un quartier comme celui-là, c'est aimer la rue. C'est un rassemblement d'enfants sur des dalles qui passent beaucoup plus de temps à l'extérieur qu'à l'intérieur des domiciles. Voilà, donc notre enfance a été un grand terrain de jeu où les possibilités de faire des bêtises étaient énormes et où les limites à respecter étaient quasiment inexistantes. Donc, attendu que nous sommes tous arrivés au même moment dans un quartier qui était en construction, donc quand on est enfant déjà, tout ce qui est chantier, c'est trouver le jouet, les jouets idéaux pour pouvoir s'affronter, pour pouvoir se battre, entre guillemets, ou faire semblant de se battre, pour faire des guerres, un peu la guerre des boutons. Passer le cap de 12-13 ans, on quitte l'innocence de l'enfance. Comme dans tous les quartiers où il y a des rassemblements de jeunes, et là, en l'occurrence, c'était des gros rassemblements de jeunes, puisque c'était des périodes de bande, et que la ville de Nîmes, comme sûrement d'autres villes en France, ont connu les grosses bandes que durant cette génération, c'est la génération des années 70, génération disco. Par exemple, la nôtre de bande, quand on a commencé à la créer, on était une vingtaine. Quand elle s'est disloquée, en 83, je crois que c'était, on était 160. Le moyen de transport était déjà hyper important. Le fait d'avoir de l'argent parce qu'il en fallait était aussi hyper important. On peut pas dire qu'on était des grands travailleurs. Donc, fallait bien trouver le pognon quelque part. Mais ça a été des combines, quoi. Des combines en tout genre. Surtout portées sur le moyen de locomotion. Sur les véhicules. Beaucoup de trafic, beaucoup de récupération de biens ou de matériel qui appartenait pas aux jeunes, c'est de l'emprunt, on va dire, et puis de la revente, et puis c'est toutes les combines des quartiers, quoi, en clair. Mon rôle à moi était plutôt le rôle du GO, de Club Med, gentil organisateur. C'est-à-dire que j'étais le détecteur des fêtes, un des détecteurs, parce qu'on était un petit groupe, on était spécialisé dans notre bande à nous. Elle était fragmentée en plusieurs groupes et moi je faisais partie du groupe organisation festivités, cérémonie. Pas cérémonie, je plaisante. C'est vrai que j'ai toujours eu ce côté-là, le côté d'aller chercher les bons plans, les endroits où il se passait des gros stuff et où on n'était même pas invité, mais où on s'invitait de force, la communication avec les patrons de boîtes, avec les patrons de débit de boissons. Quand on sortait, on essayait de se débrouiller à avoir aux alentours de 500 francs, ce qui était pas mal pour l'époque quand même. Hein. Donc après, quand on faisait une espèce de pot-pourri, qu'on mettait tout dedans, ben ça faisait quand même de belles sommes. Bien entendu, j'ai fréquenté de plus en plus le milieu de la nuit, avec tout ce que ça implique, avec des patrons de boîtes. On sait très bien que les patrons de boîtes ne sont pas toujours très clairs. On sait très bien que tout ce qui touche au milieu de la nuit n'est pas toujours très clean. On peut pas avoir fait partie d'une bande pendant pas mal d'années sans avoir fait de choses illégales. Voilà. J'ai fait des boulots quand même. Bon, j'ai pas eu beaucoup de chance sur le côté travail, justement. Parce que les endroits où j'allais, j'étais pas qualifié. Donc, quand on n'est pas qualifié, forcément, on prend ce qui vient. Les endroits où aller, je me retrouvais souvent avec des gens qui venaient de la rue aussi, et qui étaient beaucoup plus élevés dans la hiérarchie de la délinquance, ce qu'on pourrait appeler le banditisme, et qui travaillaient dans des petites sociétés nîmoises, comme d'une fabrique d'huile ou de savon, qui se mettaient au vert. Donc à chaque fois que je trouvais un boulot, à chaque fois je me retrouvais confronté à ce genre de personnages qui me parlaient de leurs exploits et qui me voulaient m'attirer encore plus dans le monde de la délinquance. C'est vrai que ce côté-là, moi, j'ai pas eu trop de bol, mais j'étais pas un mec sérieux. Donc tous les boulots où je suis passé, j'ai été viré à chaque fois. Et parfois chasser le naturel revient au galop. Pour des réactions de voyous, quoi, en clair. Je me suis jamais fait prendre ni interpellé par la police, ni de garde à vue. Je courais très vite à l'époque déjà. J'ai beaucoup, comme mes frères d'armes de l'époque, j'ai beaucoup pris de coups. J'ai eu la tête ouverte plusieurs fois, j'ai eu pas mal de blessures liées aux bagarres. Mais avec les services de police, moi j'ai eu cette chance d'être passé au travers. Moi j'ai toujours dit, la police c'est notre adversaire, c'est pas notre ennemi. L'ennemi, on sait qu'il est à abattre. L'adversaire, il faut l'éviter, quoi. Il faut lutter contre lui, mais il n'est pas forcément à abattre. Nos ennemis, c'était les autres. C'était les autres bandes. On s'accrochait avec des gens de plus en plus dangereux, sans le savoir, parce que nous, de notre côté, c'était une impulsion naturelle, c'est-à-dire qu'on avait l'habitude de se battre un peu partout, c'était toutes les semaines, c'était quasiment tous les week-ends, mais on croisait parfois le chemin de personnes pour qui la valeur de la vie ou le fait que le sang coule n'avait aucune importance, quoi. Et je pense quand même que, quand on n'est pas trop bête, prendre des coups, c'est bien. Saigner, ça fait bien. Mais bon, c'est pas ce qu'on recherche forcément dans la vie. Et c'est pas une finalité. C'est pas une finalité que de se dire qu'on peut perdre la vie en étant jeune et perdre la vie bêtement. À un certain moment, on a dû tous se poser la question de savoir si on voulait continuer à transgresser les lois, à devenir de vrais délinquants, d'être récupérés par des milieux comme le milieu nîmois ou le milieu marseillais. Le milieu marseillais qui est venu chercher beaucoup de gens chez nous, dans mon quartier, pour son armée, par exemple. Ou si, au contraire, on avait l'intention de faire quelque chose de notre vie. Et personnellement, moi, ça a été mon cas. J'ai dit souvent, les 2 années avant de rentrer dans la police, que j'allais rentrer dans la police. J'aimais l'action, tout simplement. Si j'ai fait partie d'une bande aussi longtemps, c'est parce que ça apporte une recherche d'adrénaline, de choses qu'on ne peut pas avoir quand on est dans un enfonçage. Quand on est quelqu'un de sage, de raisonnable, on ne vit pas ce que nous avons vécu, nous. Et en fin de compte, l'action, je l'ai poursuivie. Mon idée, c'était de la poursuivre dans un métier respectable. Ce qui fait qu'à l'âge de 22 ans, j'ai réouvert les livres de CM1 et de CM2, puisqu'à l'époque, c'était quand même pas un niveau extraordinaire, mais j'avais quand même un niveau supérieur à celui-ci, donc il fallait revenir sur du calcul mental de l'époque. Donc j'ai pas chouré. J'ai emprunté, mais ce coup-ci pour les rendre à ma petite nièce de l'époque, une de mes nièces, mais ses bouquins de l'école, pour pouvoir présenter le concours de gardien de la paix, que j'ai eu à la surprise générale dans la mienne, au premier coup, et qui m'a permis d'intégrer la police nationale. L'école de police s'est très bien déroulée, parce que On fait énormément de sport dans une école de police. On apprend plein de choses qu'on ne sait pas. Moi, le droit pénal, je savais même pas que ça... Enfin, je savais que ça existait, mais... Donc, ça m'intéressait aussi de savoir que certaines choses qu'on avait pu faire correspondaient à tant de peines ou de... Ou que c'était réprimandé de telle manière et que ça pouvait entraîner telle sanction. Après, l'esprit collectif, je l'avais déjà, puisque j'ai vécu quand même avec une bande quand même pendant pas mal d'années, 15 ans quasiment, où j'ai été surpris et un peu déçu. C'est de voir que le pourcentage de gens comme moi était très faible. Alors que je pensais que la police était en partie composée de gars et de peut-être de filles, mes fils sont arrivés plus tard, qui venaient de la rue. Donc qui avaient connu la délinquance, qui avaient fréquenté les cités, qui connaissaient bien le trottoir et tous ces méfaits. Donc ça, j'ai été très déçu. J'ai été très déçu de en fin de compte, de voir qu'il y avait plein de gens... je ne vais pas dire ordinaire, parce que ça ne se dit pas, nous on est aussi ordinaires que les autres, et qui avait eu une jeunesse sage, quoi. Si déjà on n'avait rien connu auparavant, en fin de compte on va avoir l'attitude d'un individu qui a été façonné, qui a été habillé pour faire un métier. Et ma réelle motivation en intégrant la police nationale, je ne suis pas rentré par vocation, mais par contre je l'ai trouvé dedans, la vocation. C'est la chose qui m'a marqué le plus pendant que j'étais jeune, c'est de voir deux personnes que je connaissais crever d'une consommation d'une substance illicite qui s'appelle l'héroïne. Et quand je suis rentré dans la police nationale, à l'école de police, je me suis renseigné pour savoir quel était l'endroit où cette substance-là se trouvait. Et à l'époque... Il s'avère qu'elle se trouvait dans un arrondissement de Paris, qui est le 18e arrondissement, qui baignait dans l'héroïne. Donc, en fin de compte, j'ai choisi ma destination professionnelle en fonction de cette substance-là. Et j'ai tout, et toute ma vie professionnelle, je l'ai passée à la chercher, à la détecter. Pas qu'elle, hein, entre parenthèses, après, par la suite. Mais à la base, c'est l'héroïne qui a guidé mes pas policiers. Mais en fin de compte, j'ai vécu 30 ans que pour cette matière-là, pour tout ce qui touche à ce monde qui est pourtant très glauque, très sournois, très fourbe, très violent, où la franchise n'existe pas, où la manipulation est omniprésente. Je parle d'une manière, je sais que ceux de la rue, quand je parle avec quelqu'un, ils savent que je suis de la rue. Dans le milieu professionnel, il y a des policiers qui ne parlent pas de cette façon-là, qui restent des policiers. Mais moi, le sens que j'ai donné à ma vie professionnelle, c'est de toujours être et appartenir, parce que c'est une appartenance aussi, appartenir à la rue et fonctionner avec elle, et ne pas vivre sans elle, être tout le temps à son contact et de pouvoir aider, je pense, le mieux possible les autres.